il y a des variantes dans cette expérience de la douleur, mais je crois que le couple douleur-dépassement de la douleur est essentiel à l'expérience esthétique.
À la fin de cette maladie, j'ai dit à mon père que je voulais apprendre à vibrer. Parce que c'est pour moi ce qui me fascinait dans le violon, c'était cette vibration si profonde, si émouvante. J'ai pris un instrument de musique en sachant que ça allait me faire du bien. Je savais que c'était quelque chose qui me donnerait du bonheur, du plaisir, de l'émotion, du bien-être. Et ça a toujours été comme ça. Mon père était médecin, mais il avait fait médecine, mais il soignait avec la musique. Il m'a appris vraiment à aimer la musique très, très, très tôt.
France Culture, la série musicale, Zoé Sfez.
Bonjour à tous, c'est une joie, un bonheur d'être ensemble, comme le disait Catherine Lara, c'est jusqu'à 18h, comme tous les dimanches sur France Culture, pour une émission libre de tous les styles, de toutes les provenances, de toutes les matières, vous le savez maintenant, une heure de radio sur la musique, en musique, bienvenue. Et aujourd'hui, nous inaugurons une nouvelle série dans la série en explorant les pouvoirs cathartiques de la musique. On connaît bien les pouvoirs immenses de la musique sur notre cerveau, sur notre mémoire, sur notre santé. On sait même confusément ce que la musique fait à la maladie ou à la douleur, c'est-à-dire qu'elle lui fait du bien. Mais aujourd'hui, interrogeons ce que la douleur ou la maladie font à la musique et aux musiciens. L'histoire de la musique et de ceux qui la font sont évidemment émaillés de récits douloureux de musiciens qui sont frappés par la maladie, le handicap, les accidents, la douleur de manière générale. Et cette douleur, beaucoup ont réussi à la transcender par la musique. Alors aujourd'hui, nous n'évoquerons pas les musiciens frappés d'un handicap dès la naissance. Ils mériteraient une émission à eux seuls, bien sûr. Mais nous parlerons bien de ceux qui ont rencontré sur le chemin la vulnérabilité du corps, celle de l'esprit. Pour certains, la douleur, la maladie a donné lieu à la nécessité de créer. Pour d'autres, elle a été un obstacle, un empêchement pour la créativité. Il a fallu s'adapter, changer de regard, d'instrument comme de rapport au monde. Beaucoup, en tout cas, l'ont raconté, l'ont donné à entendre cette douleur. Certains, jusqu'à leur fin et dans l'adversité, ont fait de la musique le dernier, le plus grand, le seul lien réel avec la vie. Récit forcément subjectif, non exhaustif, douloureux mais aussi lumineux, de la musique comme catharsis. Hier, le doigté inimitable de Django Reinhardt dans Minor Swing, aux côtés notamment de Stéphane Grappelli, entrons dans le vif de cette émission avec l'une des histoires de résilience les plus réjouissantes de l'histoire de la musique populaire, puisqu'au moment où il enregistre ce swing lumineux véritablement, on est en 1937 et il manque deux doigts et une partie de sa main gauche est paralysée à Django Reinhardt. Django Reinhardt, l'un des plus beaux, les plus grands exemples de ces musiciens qui non seulement ont su dépasser la douleur, le handicap, mais lui donner un sens et faire de leur handicap un matériel original à la source d'un style de création propre. Puisque Django est né dans une famille Sinté, manouche, comme on disait dans la France d'alors où il est né, dans la petite ville de Liberchi, c'était en 1910. Et Django était en fait, bien avant son accident, un grand virtuose. À 12 ans, déjà, il maîtrise le banjo-guitare de son oncle, mais il s'adonne aussi avec beaucoup de talent au violon, et finalement à la guitare qui devient son instrument de prédilection. Il est si doué qu'il est repéré à 13 ans à peine par l'accordéoniste de Bâle, Jean Vessade, qu'il prend sous son aile, qu'il fait tourner et qui lui fait enregistrer son tout premier disque alors qu'il a à peine 18 ans et qu'il est illettré. Il ne sait pas écrire son nom. Il impressionne beaucoup en France et jusqu'en Grande-Bretagne. Il est repéré par un producteur anglais et c'est la veille de son départ pour une tournée britannique qui s'annonçait populaire mais triomphale que sa roulotte prend feu un soir parce qu'il avait posé une bougie trop près de ses petites fleurs en celluloïde qui ornaient le lieu comme le voulait la tradition. Django est gravement touché à la jambe droite et très lourdement surtout à la main gauche. Il perd l'annulaire et son auriculaire ne répond absolument plus. Pendant 18 mois, dans un hôpital qui tolère assez mal d'ailleurs ses essais répétés de rééducation au banjo, il travaille inlassablement une nouvelle technique complètement inédite qui va lui donner son style inimitable. Il plaque les accords rythmiques en utilisant son pouce et en contorsionnant d'une façon presque surhumaine son annulaire et son auriculaire qui sont complètement ankylosés. Quand il sort de l'hôpital en 1930, Django est prêt à prendre le monde du jazz d'assaut. Monde du jazz où son héritage reste si prédominant que dans les années qui suivent sa mort et encore aujourd'hui, plusieurs guitaristes qui sont parfaitement valides s'attachent volontairement les doigts qui lui manquaient à lui pour tenter de retrouver le génie de sa technique et de son son. Mais Django, en ce début de siècle, est loin vraiment d'être le seul musicien qui doit faire le deuil ou transcender la perte d'un outil crucial, la main. La Première Guerre mondiale est passée par là. Les obus ont défiguré les hommes, les ont décousus, les ont amputés. C'est ce qui est arrivé à un jeune pianiste, Paul Wittgenstein, fils d'un industriel, instrumentiste prometteur, qui avait donné quelques concerts avant de partir au front et qui revient de combat de Pologne sans sa main droite. Mais il refuse la fatalité, et il décide qu'il jouera toujours, quand même s'il n'a plus que sa main gauche. Pendant des mois, il réapprend son art. Il adapte toutes les œuvres qu'il peut adapter, du Britten, du Korngold, du Strauss. Son abnégation est tellement impressionnante qu'elle convainc Maurice Ravel, grand compositeur déjà très réputé, et ami de son frère, de lui écrire une pièce, Concerto pour la main gauche. Une œuvre immense, d'une virtuosité lumineuse, d'un génie implacable, qui convoque les bruits terribles de la guerre qui a englouti l'Europe, mais préfigure, grâce à des emprunts au jazz, des futurs plus joyeux. Concerto pour la main gauche de Maurice Ravel, interprété ici par Jean-Yves Thibaudet avec l'Orchestre Symphonique de Montréal, composé donc à l'origine pour Paul Wittgenstein, qui en a eu l'exclusivité pendant 6 ans, qu'il a beaucoup joué et qui s'est offert beaucoup de liberté par rapport à la partition originale à l'époque qu'il trouvait trop complexe. Il a mis du temps à comprendre la puissance, la complexité que l'œuvre, de l'œuvre que Ravel avait écrite pour lui. Et c'est une œuvre qui lui apporte la gloire qu'il avait espéré, tant espéré malgré le handicap. Ce qui est aussi très beau avec ce concerto, c'est qu'il reste aujourd'hui l'un des plus joués au monde, ce qui oblige tous les pianistes, notamment ici Jean-Yves Thibaudet, à imaginer finalement l'absence de leur main droite, à la mettre en scène. Certains jouent ce concerto la main dans le dos, certains la main pendante à côté. Et cette composition née de la nécessité et du handicap a donné lieu à une expérience commune qui continue à être partagée par des pianistes tous les jours jusqu'en 2021. Plus près de nous, il est un musicien qui a dû absolument abandonner l'instrument auquel il avait été formé et dans lequel il excellait, tant c'est sans doute l'un de ceux qui demandent le plus d'engagement total de la part du corps, c'est-à-dire la batterie. J'ai nommé Robert Wyatt, immense chercheur pionnier de la musique, connu dès ses débuts avec le groupe Soft Machine, qui a connu un grand succès, à la fois auprès des mélomanes et puis du grand public, grâce à un jeu de batterie justement très fin, très délicat, très complexe, proche du jeu de batterie du jazz, et une voix de haute contre très étrange qui faisait déjà de lui un créateur hyper audacieux et atypique dans le monde du rock. Alors qu'il vient de fonder un nouveau groupe, The Matching Mole, sa vie bascule. Il a 28 ans et à la soirée d'anniversaire de la poétesse Jilly Smith, il tombe du 4e étage. Il perd l'usage de ses 2 jambes. Il ne pourra plus jamais jouer de batterie. Mais dès l'année suivante, en 1974, il publie Rock Bottom, album crucial qui fera date dans l'histoire du rock, dans lequel il interprète tous les autres instruments, sauf bien sûr la batterie, et inaugure ainsi une longue et superbe recherche musicale qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui. The Age of Self, issu de l'album Old Rotten Hat, paru en 1985, près de 10 ans après cet accident qui a obligé Robert Wyatt à se plonger dans une recherche plus expérimentale, plus fondamentale encore de ce que peut la musique. Robert Wyatt, qui, on l'a bien compris, a dû finalement réinventer le musicien qu'il était déjà avant l'accident, comme l'ont fait avant lui Paul Wittgenstein ou Django Reinhardt. Pour certains, l'accident, la douleur ou la maladie, c'est bien l'accident, la douleur ou la maladie qui déclenche la nécessité de la musique. La musique ne préexiste pas, mais c'est soudain parce que le rapport au monde est perturbé que la musique s'impose comme le lieu de la réparation, le lieu de l'exploration ou tout simplement le seul lieu possible de communication avec le monde.
Ça, c'est quelque chose qui est arrivé après un grand accident dans ma vie.
Mais vous chantiez avant ?
Non, pas comme ça, pas dessus. Chez moi, peut-être, mais pas avec une réponse tellement gentille. Et c'est quelque chose de thérapie. C'est quelque chose absolument de thérapie. Et pour moi, ça a changé ma vie.
Qu'est-ce qui s'est passé très exactement lorsque vous aviez 19 ans ? C'était quoi cet accident ?
Je suis dans une bicyclette. Et I was on a bike.
J'étais à bicyclette. Et la voiture m'est rentrée dedans, mais en plein dans le centre. Enfin,
and I fractured my pelvis.
Et j'ai fracturé donc tout ce qui était le pelvis, également le cou, tout le dos, le squelette en fait, grande partie du squelette.
Et ma tête.
Mon cerveau. Et en fait, c'est un accident donc qui a touché le cerveau.
Et vous avez été soigné par ce qu'on appelle la musicothérapie. De quoi s'agit-il ?
I could not speak.
Je ne pouvais donc pas parler. Je ne pouvais pas marcher.
I could not see.
Je ne voyais pas.
I had to go through so many different therapies.
J'ai dû passer par tellement de thérapies.
You would die. It's ridiculous.
Rien que d'y penser, on pourrait en mourir.
It was to sit up.
Simplement, s'asseoir était impossible.
To sit at a piano, I could not.
S'asseoir à un piano, impossible également. Et c'est pourquoi j'ai choisi la guitare. Puis j'ai vu la musique de Stanley Jordan et j'ai pris la guitare comme il fallait la prendre par le manche parce que je me suis dit, j'arriverai jamais à être aussi bonne que lui.
Pendant que vous appreniez la guitare, est-ce que vous avez commencé à composer ce qui va devenir votre premier album de 6 titres?
J'apprenais à parler avec la guitare. Je les ai dit à travers l'instrument.
With the notes.
Avec les notes, voyez-vous.
Don, de, si, ta, bottom, si, ta. You know, very simple, very little notes.
And I couldn't remember. Notes très simples. One hour later. Et une heure après, je ne m'en souvenais déjà plus.
That was like, pff, gone.
C'était parti, comme ça, évaporé.
Et puis, because I couldn't speak to anyone else,
comme je ne pouvais parler à personne d'autre,
I spoke to an instrument.
J'ai parlé à cet instrument.
And then eventually,
et au bout d'un moment,
I was able to form a few sentences.
J'étais capable de dire des phrases. Et c'était des chansons.
It's very strange.
C'est étonnant, non? Mais
it's the same now.
C'est la même chose maintenant.
An instrument.
Je parle à cet instrument.
Through an instrument.
Ou à travers un instrument.
Was I to know that this was always only just a little game to you? All the time I thought you gave your heart, I thought that I would do the same for you. Tell the truth, I think I should have seen it coming from a mile away. When the words you say are, baby, I'm a fool who thinks it's cool to fall in love. If I gave a thought to fascination, I would know it wasn't right to care. Logic doesn't seem to mind that I am fascinated by a love affair. Still, my heart would benefit from a little tenderness from time to time. But never mind, 'cause baby, I'm a fool who thinks it's cool to fall in love. Maybe I should hold on just a moment and be sure it's not for vanity. Look
me in the eye and tell me love is never based upon insanity. Yeah. Hear the way my heart is beating, hurry up, the moment's fleeting. Kiss me now, don't ask me how. Baby, I'm a fool who thinks it's cool to fall. Baby, I'm a fool who thinks it's cool to fall. And I would never tell if you became a fool and fell in love. La voix
de la chanteuse américaine, mais très francophile, Mélodie Gardot, comme une présence, comme un langage entre elle et le monde. Mélodie Gardot qui parle encore aujourd'hui à ses instruments et pour ses instruments. Mélodie Gardot qui, on l'aura compris, après cet accident terrible qui encore aujourd'hui trouble sa vue et l'oblige à marcher avec une canne. Mélodie Gardot pour qui le studio est un lieu de conversation privilégié avec le monde. Et comme pour elle, le studio a fonctionné comme le lieu de la survie pour un jeune musicien devenu un producteur célébré, attentif, qui nous est très précieux et qui est entré en musique un peu comme on organise quelque chose qui serait du côté de la vie, contre la tentation de la mort, contre la tentation de l'excès, l'excès dans la fête, l'excès dans la politique aussi, surtout contre la fatalité d'une maladie, le diabète, qui plane sur la vie depuis l'enfance, comme une épée de Damoclès, et qui ne cesse d'imposer son propre rythme. Pour le fondateur de l'indispensable label Tricatel, et qui fait aussi l'arrangeur de Mick Harvey, de Valérie Lemercier, de Michel Houellebecq, j'ai nommé le merveilleux Bertrand Burgala, le studio est le lieu où il a pu reprendre le contrôle de sa vie, en tout cas le contrôle du temps, comme il le racontait dans son livre, Diabétiquement vôtre, mais surtout comme il le disait dans le magnifique À voix nue qu'il a accordé à Mathieu Conquet sur France Culture.
Est-ce que le plaisir de la musique, c'est aussi pour vous une façon de dilater le temps et de l'abolir ?
C'est tout à fait exact. C'est vrai que le diabète a longtemps changé ma perception du temps, parce que je suis devenu diabétique à l'âge de 11 ans et à une époque où à la fois, d'ailleurs comme malheureusement aujourd'hui encore, le diabète insulino-dépendant était à la fois les difficultés des diabétiques étaient minorées. On leur disait ça se traite très bien maintenant. Et en même temps, avec une menace de sanctions permanentes et un côté punitif, une pédagogie noire qui sous-entendait que si on n'était pas content, c'était qu'on s'y était mal pris, qu'on se traitait mal, qu'on se soignait mal, avec donc toute cette condescendance. Et c'est vrai que la musique, c'était une façon pour moi d'échapper aussi à ce genre de choses, et en particulier sur un enregistrement. Parce que je me bats beaucoup aujourd'hui justement pour le diabète, pour qu'on change un certain nombre de mauvais comportements vis-à-vis des diabétiques. Et un diabétique insulino-dépendant qui travaille dans le monde, disons, normal et qui n'est pas non plus protégé dans une grande administration, mais qui travaille, je ne sais pas moi, dans un supermarché, dans la vente, c'est très compliqué de s'arrêter pour mesurer sa glycémie, de faire une piqûre, etc. Et quand on est dans un studio d'enregistrement, c'est quand même le studio d'enregistrement. C'est une cabine qui est complètement isolée du monde, où on peut faire les choses à son rythme en général.
Au soleil de Tricatel. Sonorama mélancolique et sensuel. En direct de la constellation Tricatel. La musique Tricatel a l'air superficielle. mais elle est sentimentale. C'est une caravelle aux voiles fléchies par l'Esterel. Une féerie de nappes en papier et de cœurs qui chavirent sous les tunnels de l'hédonisme.
Mais
moi, je serais devenu un fermier, j'aurais dû aller à l'armée et être soldat. J'aurais jamais eu l'occasion d'étudier la musique au ranch. On peut penser que devenir aveugle, ce n'était pas si mal que ça. Parce que ça m'a fait devenir musicien. Je n'aurais jamais pu avoir les leçons que j'ai eues à l'école des aveugles d'Iowa si je n'avais pas été aveugle, parce que c'était très cher. Et pour cette raison, je pense que devenir aveugle, ce n'était pas si mal que ça, parce que ça m'a ouvert des tas de possibilités que je n'aurais jamais eues autrement.
La voix de l'un des êtres les plus exquis, d'un musicien très important, pas assez connu à mon goût, surtout aussi certainement l'un des musiciens les plus inclassables de l'histoire du XXe siècle. J'ai nommé Moondog, né Louis Thomas Haddin dans le Tennessee, au fin fond des États-Unis, dans un début de siècle où sa famille correspond tout à fait à la famille américaine traditionnelle. Son père est pasteur, sa mère est institutrice. Le jour, on travaille au champ. Il côtoie dans une réserve, quelques nations indiennes assistent à des cérémonies, parfois de la danse du soleil, qui le fascinent et qui l'habitent. Plus tard, ces cérémonies lui inspireront le personnage d'Inouï qu'il a fini par créer. Moondog, le nom dont il s'est rebaptisé, signifie « le chien qui hurle à la lune », en souvenir d'un chien qu'il avait croisé et qu'il avait, semble-t-il, reconnu. Mais Louis Thomas Haydn ne serait sans doute absolument jamais devenu Moondog sans un accident qui marquera sa vie. Il aurait sans doute, comme il le disait ici, hérité du ranch familial si l'explosion d'un bâton de dynamite mal conservé dans le grenier de la maison familiale ne lui avait sauté au visage alors qu'il avait seulement 16 ans, le privant pour toujours de la vue et lui donnant l'apparence de cette espèce de messie à la croisée du viking et du chaman, un messie aux cheveux blancs. Jamais nous n'aurions pu jouir de cette œuvre si étrange et hétéroclite, inclassable qu'il nous a laissée, composée de plus de 200 mini-symphonies, certaines durent à peine 1 minute 30, de 300 madrigaux, de chaconnes, de préludes, de fugues, et puis toute une foule de Lohengrin, forme musicale inédite qu'il a inventée, composée du mot log pour canon, et grund pour basse obstinée, car obstiné il l'était.
We'll be right back.
700 ans sépare le canon de Moondog que nous avons entendu de cet Ate Virgo de la messe de Notre-Dame, composée probablement entre 1300 et 1365 par l'une des figures les plus intéressantes du Haut Moyen-Âge. Il s'appelle Guillaume de Machaut, poète illustre mais aussi compositeur, pionnier. Cette messe représente le plus ancien ensemble complet de messes polyphoniques à quatre voix, composée par un seul musicien identifié. C'est donc aussi la première, puisque toutes les autres messes polyphoniques qui l'ont précédée, celles de Tournai, de Barcelone, de Toulouse, de la Sorbonne, sont des compilations plus ou moins complètes qui proviennent toutes de pièces isolées, anonymes, réunies dans des manuscrits. Celle-là, on le sait, est bien de Machaut. Incroyable personnage que ce Machaut, qui était à la fois chanoine, mais aussi laïque, auteur d'une œuvre poétique immense, près de 400 poèmes, mais aussi musical, les deux vont absolument de pair chez lui. Il a écrit 248 ballades, 76 rondeaux, 39 virelais, 80 laits, 10 complaintes, 7 chants royaux. Il s'inscrit à la fois dans une tradition marquée par la chevalerie, puisqu'il est à la fois un chanoine, mais un chanoine chevaleresque, que dans la longue lignée de poètes antiques. On sait qu'il lit Homère, chez qui le verbe et la musique sont inextricablement liés. L'homme va traverser son temps en bouleversant tout en perpétuant les traditions musicales qui sont à l'œuvre à l'époque, qu'il assimile et qu'il modifie avec un talent qu'on qualifierait aujourd'hui de génial. On disait à l'époque un talent divin. Mais cette messe, comme l'immense partie de son œuvre musicale, en tout cas la période où il compose le plus, est une référence directe ou un pur produit de l'événement qui a bouleversé son temps et presque détruit sa culture 10 ans auparavant, c'est-à-dire la peste noire. Peste qui a vu le continent perdre en 10 ans le tiers de ses habitants. Il nous est très difficile de nous rendre compte de l'immensité, du chaos que Machaut tente de traduire ici. On croit savoir que Machaut a peut-être lui-même contracté la maladie tout en y survivant. Cette messe, comme bien des pièces d'ailleurs, raconte le traumatisme de la mort, de la maladie, les voix de ceux qui montent vers le salut. Plus près de nous, la musique est aussi un moyen de mettre en récit, ou en tout cas de faire entendre littéralement ce que la maladie a fait traverser, quelles traces, même sonores, elle a pu laisser. IRM, Charlotte Gainsbourg. La chanson est issue de l'album du même nom. C'est sans doute son meilleur album, concocté avec le concours du génial producteur américain Beck, qui est un témoignage, un exercice cathartique tout à fait assumé de la part de la chanteuse franco-britannique qui a subi en 2007 un accident vasculaire cérébral qui a profondément changé son rapport à la vie. Dans ce titre, elle donne à entendre tout à la fois les sons très concrets que ceux qui ont déjà passé une IRM connaissent très bien, ces sons stridents, proches de la musique concrète, et tout à la fois l'angoisse existentielle, la peur de la mort qui l'accompagnait, en tout cas depuis, et que visiblement cet album a contribué à éloigner, donner à entendre ce que concrètement la maladie apporte en fait comme matière sonore. Des compositeurs l'ont fait bien avant Charlotte Gainsbourg. C'est le cas notamment d'un homme dont on a déjà parlé dans cette série, le compositeur allemand Robert Schumann. Il en est probablement un des exemples les plus bouleversants, plus difficiles à comprendre aussi. Il y a véritablement un mystère Schumann sur lequel à la fois médecin et musicien s'écharpent depuis sa mort, il y a plus d'un siècle. Lui qui s'était juré d'abord de devenir un virtuose du piano est touché de plein fouet alors qu'il est encore tout jeune parce qu'il décrit comme une paralysie des douleurs dans la main qui le mèneront à ne plus jamais se servir en concert de son majeur ni de son annulaire, puis finalement à arrêter de se produire en public en jouant du piano. Alors est-ce que c'était le fruit d'une dystonie, un espèce de mal qui frappe souvent les pianistes et qu'aujourd'hui on soigne plutôt bien? Ou bien les signes avant-coureurs de la contamination et de la maladie de la syphilis qu'il a assurément contractée, mais les biographes peinent à identifier à quel moment, sont-ce surtout déjà les signes avant-coureurs d'une maladie mentale, troubles bipolaires ou psychose schizoïde, comme le diagnostic à distance aujourd'hui des psychiatres, qui ne va cesser ensuite de s'aggraver avec le temps. En tout cas, les spécialistes examinent la question depuis toujours, continuent de débattre. Une chose est sûre, Robert Schumann a vécu en alternant des phases de création très aiguës, extraordinairement fertiles, comme cette année 1840 où il compose en à peine quelques mois 138 Lieder, avec des phases d'abattement très infertiles. Tout cela culmine en 1854. Le 17 février, il a un acouphène. Et cet acouphène le rend de plus en plus fou et le mène à avoir des hallucinations sonores. Il entend alors un thème ce jour, précisément le 17 février, qu'il va noter et sur lequel il compose les variations des esprits. Gester Variationen, en quelques jours seulement, une espèce de ritournelle obsessionnelle autour de quelques notes qui semblent danser gaiement et puis par instant décrocher du réel. Schumann introduit inlassablement les marques du fait qu'il est en train de perdre pied. Schumann qui, quelques jours plus tard, tentera de se suicider, sera interné et ne jouera plus. En tout cas, dans ses variations, c'est clair, Robert Schumann veut absolument qu'on entende ce que lui, il entend. Thank you.
parler de la folie de Schumann est pour moi une absurdité. De même que quand on parle de la folie de Hölderlin. Parce qu'il faut ne pas avoir compris quelle était véritablement l'aspiration romantique, cet élan inguérissable et inassouvissable vers l'infini et vers l'absolu. Il faut avoir ignoré ça pour ne pas comprendre que le refuge dans la folie, dans ce qu'on appelle la folie, est pour certains romantiques, de même que pour d'autres le suicide, le moyen d'atteindre enfin l'au-delà de ce qui n'est pas atteignable par les moyens habituels, par leurs moyens physiques et même leurs moyens mentaux. Schumann est arrivé à ce point de sa vie où arrivent, je crois, tous les romantiques, qu'ils soient poètes ou qu'ils soient compositeurs, c'est-à-dire le moment où ils se trouvent en face de l'inexprimable. Pour des hommes dont toute la vie et dont tout le bonheur a été d'exprimer ce qu'ils éprouvaient, il vient un point où ce qu'ils entendent de l'au-delà, ce qui leur est donné par des forces inconnues, dépasse tellement les facultés d'expression de l'homme qu'ils sont impuissants en face de se donner. Et que ce qui leur est donné à eux, ils ne peuvent pas le donner aux autres. Et je crois que ce drame de l'inexprimable, c'est cela qui a été la source du tourment de Schumann dans ces dernières années et la source de cet état, je refuse de dire folie, de cet état de déraison dans lequel il a fini par descendre petit à petit comme on descend dans un tombeau.
Le critique musical Marcel Brion qui refuse d'évoquer le terme de folie pour Schumann. En tout cas, est-ce que c'est vraiment la maladie qui a influencé la musique de Schumann ou est-ce que c'est la musique, comme le sous-entend Michel Brion, musique qu'il entendait et qui ne supportait pas de ne pouvoir exister, qui a conduit le compositeur à la maladie et au tombeau? Nul ne le saura jamais. Mais en tout cas, il est certain que Schumann n'est pas le seul musicien brillant touché par la syphilis, ce mal honteux en ce 19e siècle. Comme lui, le maître allemand du Lieder, Hugo Wolf, alterne phases de création suraiguë, plus de 100 Lieder en quelques années, et des phases d'abattement. Chez bien des compositeurs géniaux, l'approche de la mort, son lot de souffrances physiques, marque la fin du travail de création. C'est le cas par exemple de Donizetti, qui survivra près de 10 ans, mais sans écrire. Emmanuel Chabrier, mort à 53 ans. Bedřich Mettet, tous emportés par la syphilis qui les a rendus avant cela muets, bien trop tôt. Mais il est un compositeur qui a lutté jusqu'au bout. C'est celui qui est parti le plus jeune, l'immense Franz Schubert, contaminé lui aussi par la syphilis très jeune, sans doute vers 26 ans, qui développe en 5 ans à peine les symptômes terribles de la maladie, soigné au mercure. On sait aujourd'hui à quel point ce traitement faisait du mal, comme tous ses contemporains. Il invoque sans cesse la mort dans ses œuvres. Elle finit par le rattraper, même si c'est la fièvre typhoïde qui l'emporte, à 31 ans seulement. Ce qui est intéressant, c'est que les 18 derniers mois de sa maladie, de son existence, Schubert souffre, mais c'est là qu'il accumule les chefs-d'œuvre. Voyage d'hiver, trio opus 100, un sublime quintet pour deux violoncelles et surtout, des sonates pour piano absolument épuisantes à composer et sublimes qui clairement dialoguent avec l'au-delà.
Thank you. Il y a des déclics comme ça qui peuvent se faire très jeunes, ou après d'ailleurs, mais qui peuvent se faire avec des compositeurs, on a l'impression qu'on parle la même langue. Et là, j'ai eu l'impression de parler la même langue et de ressentir sa souffrance de façon la plus brute. J'ai l'impression que mon cerveau se glace, c'est-à-dire que je ne peux plus avoir d'autres pensées que celle-ci. Donc j'ai une espèce de concentration absolue sur ce qui se passe et j'ai le cœur qui se serre, mais qui se serre, j'ai l'impression qu'il va se concentrer sur lui-même et que au niveau des muscles, j'ai une tension à chaque fois dans tous les muscles des jambes, des bras, des épaules. Je sens que c'est... J'essaye effectivement de résister à ce couteau et vraiment, et à la fin, au bout des 15 minutes du mouvement lent, j'arrive plus à respirer. Et je mets une heure, vraiment une bonne heure à revenir sur Terre, quoi. C'est la sonate D960 de Franz Schubert. Donc il l'a écrite dans les derniers mois de sa vie. Donc il était dans un état assez terrible de solitude et puis un état physique plus que préoccupant parce qu'il est à bout de force et il ne peut faire qu'un aller-retour entre son lit et sa table de travail. Mais qu'au moment où il écrit cette sonate, il y a une force qu'il ne comprend pas qui est là et qui le pousse à écrire pendant des heures. C'est des œuvres énormes qu'il écrit. Enfin, on peut même pas imaginer que quelqu'un qui est à l'agonie puisse écrire ça. Et c'est une grande marche vers la mort, mais aussi vers l'infini. Et c'est une image de la mort qui est très tendre, finalement. Il la sent planer autour de lui et c'est sa confidente à ce moment-là.
Extrait d'un superbe documentaire, Les Pieds sur Terre, intitulé Le Cœur Brisé, où une jeune pianiste raconte véritablement ce que peut cette sonate de Schubert, cette sonate D960, et qui raconte le pouvoir de l'expérience partagée qui a lieu par la musique au-delà de la mort. Compositeur, chanteur qui dialogue avec l'au-delà, la musique comme soutien au moment du crépuscule. Le grand Leonard Cohen, lui aussi, s'y est adonné. Alors qu'il était déjà frappé par un lymphome, il a travaillé pendant les deux dernières années de sa vie à un album dont il savait qu'il serait posthume, construit, et c'est ça qui est intéressant, avec le concours de son fils Adam. Cet album, entendu de là où nous sommes, apparaît à la fois comme un adieu à la vie et comme une vraie célébration de l'amour. Cette série musicale, sans évoquer celui qui a combattu peut-être la pire infirmité possible pour un musicien, la surdité. Ludwig van Beethoven, frappé jeune, beaucoup trop jeune, par une surdité dont on a encore du mal aujourd'hui à savoir si elle était le fruit d'une maladie génétique ou d'un trauma sonore causé par notamment les coups d'un père qui buvait trop. Tout ce qu'on sait, c'est qu'évidemment Beethoven a beaucoup souffert de cette maladie, qu'il a tenté très longtemps de la cacher. Du fait qu'il l'a cachée, il est passé très longtemps pour un misanthrope. Cette maladie et cette surdité l'ont plongé dans la dépression. Le désarroi est pourtant, sa 9e symphonie est triomphante, scintillante, alors qu'on le sait sans doute, il n'entend presque plus, et qu'il n'entendra sans doute jamais cette symphonie, il célèbre à travers elle la vie et la joie. La lumière intérieure de Beethoven dans cette 9e symphonie et son final. Pour clore cette série musicale consacrée à ce que la maladie fait à la musique, est-ce que la musique peut contre la maladie? Merci de l'avoir suivi. Cette émission a été préparée comme chaque semaine par Pascaline Bonnet. Je remercie évidemment Marie Chauveau, Alina et ses précieuses pépites qui nous accompagnent depuis le début de l'année. Merci évidemment à Pierre Plantin, à la discothèque de Radio France. Cette émission a été réalisée par Louise André et la prise de son est assurée par Jean-Guilain Meige. Vous pouvez évidemment la retrouver sur le site de France Culture et sur toutes les bonnes applications de podcast. Je vous dis à la semaine prochaine.